Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, confus, errants, chercheurs d'humanité et d'urbanité, particulièrement ce lendemain de cuite. Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse. Aujourd'hui, on troque le désert de la pensée contre une oasis de sensibilité et de générosité. Aujourd'hui, on délaisse la sécheresse d'une politique de l'exclusion pour un univers artistique ouvert, celui de Guy Chamoux. Un artiste qui fait du vide un plein, fut-il de question. Un artiste qui, par sa technique de la linogravure notamment, est un funambule jouant avec le blanc et le noir, comme avec l'absence et la présence, la perte et l'abondance. Aujourd'hui, on donne la parole à la poésie qui, consciente de sa fragilité, représente peut-être la véritable force, moins viriliste. Et c'est Olivier qui interviewera Guy Chamoux. Dans un instant, il fera parler les lettres de son abécédaire. Bonjour Olivier.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde et quelle belle présentation de ce bel artiste qu'est Guy Chamoux.
Eh bien bonjour Guy.
Bonjour.
Bienvenue ici dans l'onde curieuse, bienvenue à Fréquence 7. Et bonjour Sylvain, à la réalisation de cette émission.
Salut.
Hey. Bon lundi matin.
Ouais.
Ouais. Et avec nous également, comme toute cette semaine, Romane. Bonjour Romane.
Bonjour.
Romane qui est en stage chez nous, qui a eu la délicieuse idée de faire précéder son oral de bac de français par un petit stage à la radio pour se détendre. Bonne idée.
Excellente.
Et bien sûr, en fin d'émission, vous retrouverez la chronique hebdomadaire La Minute Asso, consacrée comme chaque lundi à l'actualité de l'accompagnement associatif. Et aujourd'hui, c'est Mariette Aubert, directrice d'Âme Sud, qui viendra nous parler d'un événement qui aura lieu à l'IAS, c'est près de Privas, le 24 juin. Et puis, on commence tout cela par quelques autres infos, y en a-t-il ? Oui, le monde est fou. Je ne parle pas des élections d'hier, un mélange de Miss France à l'échelle de l'Eurovision, où les gens ont voté, semble-t-il, pour les candidats qui étaient le plus présents sur les écrans. Jeunes, dynamiques, beaux, j'imagine. Enfin, je veux espérer que c'est pas pour des considérations idéologiques, xénophobes, discriminatoires, ségrégationnistes. Je ne parle pas... Non, de quoi je parle ? Oui, encore, je suis dans la confusion. Alors je vais essayer de ne pas trop faire référence à ces élections, mais quand même, je me demande quel projet de santé publique porte l'extrême droite. En tout cas, pendant ce temps-là, en Ardèche, les syndicats, bien lancés par le démantèlement d'un service public de santé, et notamment hospitalier depuis 2006, accéléré ces derniers temps, et qui passent de la petite foulée au 100 mètres haies, ils ont prévu de longue date déjà de manifester demain à 14h devant l'Agence régionale de la santé à Privas contre les conditions de travail déplorables dans les milieux de la santé, contre les sous-effectifs dans les services, les glissements de tâches et bien sûr les fermetures de lits et de services de toutes nos structures. C'est un peu l'Ardèche touch, ces fermetures de services et de lits.
Donc c'est général.
C'est général, mais... On est particulièrement impacté ici en Ardèche. L'Union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale CGT Ardèche appelle donc tout le personnel, public, privé ou de l'action sociale, et tous les usagers à se rassembler demain à 14h, donc je répète, devant l'Agence régionale de la santé à Privas. Oui, comme je le disais, je vais essayer de ne pas trop faire référence à ces élections. Mais quand même, je me demande quelle est la vision géopolitique de l'extrême droite, dont le conflit en Palestine notamment. Alors pendant ce temps-là, en Ardèche, dans le petit village d'Évance, des citoyens et citoyennes se mobilisent et font entendre la voix de Gaza. Demain à 19h, en solidarité avec les Palestiniens, une lecture à quatre voix du journal de Gaza sous les bombes de Hossam al-Madoun sera donnée, salle Le Monaco, au Vence. Le journal de Hossam al-Madoun, c'est un témoignage spontané, sans intermédiaire, d'un homme qui relate ses souffrances, ses angoisses, son désespoir et souvent, bien sûr, sa révolte devant le sort que lui et sa famille subissent sous les bombes, qu'il fuit par tous les moyens imaginables. Un récit donc de la lutte opiniâtre au jour le jour de cet homme pour survivre dans une guerre qu'il n'a ni engagé, ni voulu. Oussam Al-Madoun, c'est un intellectuel gazaoui d'une cinquantaine d'années, comédien, metteur en scène depuis des décennies. Il dit, ou plutôt il écrit, « J'écris parce que je suis vivant, j'écris parce que ça me fait sentir que je suis vivant. J'écrirai jusqu'à ce que mes yeux se ferment pour la dernière fois, je continuerai d'écrire. » Oussam Al-Madoun est au Caire actuellement. Il dit « J'ai quitté Gaza, mais Gaza ne m'a pas quitté. » Les quatre voix que vous entendrez qui donneront corps et voix à ces mots d'Oussam Al-Madoun, ce sont celles de Jean Delval, Daniel Ricaille, qui sont créateurs en Belgique des éditions du Cerisier, qui ont édité le livre d'Oussam Al-Madoun, et puis celles également de Philippe Lefebvre et Dominique Roland. Des extraits de son journal sont à retrouver sur l'un des blogs de Mediapart. Et puis, comme je vous le disais, il y a un livre qui est édité qui s'appelle « Je vous écris de Gaza sous les bombes », journal octobre-décembre 2023, c'est aux éditions du Cerisier. Demain donc, à 19h, salle Le Monaco au Vence, il y aura cette lecture suivie d'un petit débat et puis de quelques bricoles à manger pour continuer de parler et d'être vivant. Inauguration également demain à partir de 16h30 au Teil du Tilt. Le Tilt, mais qu'est-ce donc, Romane ?
Le Tilt, c'est un tiers-lieu culturel fondé par l'association Les Arts Collectifs en 2021. Cet endroit regroupe une activité professionnelle et un monde artistique. Là-bas, de nombreux événements sont proposés, notamment la possibilité de visiter virtuellement des musées dans le pôle numérique Microfolie.
Oui, c'est ça. C'est un tiers-lieu qui est plutôt axé art et numérique. Et demain, donc je le disais, inauguration, est-ce qu'on a un programme de l'inauguration ?
Évidemment, évidemment. Dès 16h30, vous êtes conviés dans l'ancienne école maternelle de la Violette, donc au Teil, et vous pourrez assister à des spectacles, expositions, ateliers et animations.
Il y a un petit pot ?
Oui. Évidemment.
Bien sûr. Donc allez découvrir ce lieu, ce tiers-lieu qui donne justement la possibilité à des artistes, à des enfants, à des jeunes, à toute personne ouverte qui veulent expérimenter, apprendre, se professionnaliser, avoir un lieu de diffusion, leur donne justement cette possibilité donc à travers ce nouveau tiers-lieu, le Tilt. Au Teil, donc ça ce sera demain à partir de 16h30. Merci Romane pour ces informations. Eh bien nous on va continuer en musique avec Françoise Breu, un petit peu de poésie aussi, si tu disais.
Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi. Je n'hésiterai pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas. Je serais prête comme si j'attendais. Si tu disais jusque-là, on s'est contenté de rien et ça va un peu, je t'apprendrai, crois-moi. Je répondrai, c'est vrai, chaque pan de mur, chaque fissure. Je connais trop le dessin de cet endroit-là. Si tu disais ça, je serais prête comme si j'attendais. On y va. Si tu disais que pour nous c'est le bon moment, je t'écouterai, crois-moi. Je suis prête depuis longtemps, mais tu ne dis rien de tout ça. Tu ne décides rien, je ne sais pas si tu as idée de ce qu'on pourrait faire. Je me demande pourquoi tu es là.
si tu disais de Françoise Breu, tiré de l'album 20 à 30 000 jours, c'était déjà en 2000 et c'est le choix de notre invité Guy Chamoux. Rebonjour Guy.
Bonjour.
Avant de vous laisser converser avec Olivier Horry, une question, pourquoi ce choix musical ?
Parce que c'est une chanson qui m'a toujours bouleversé. Et puis je trouve que quand je repensais à l'interview qui va suivre, un des personnages se demande finalement un peu ce qu'il fait là où il est. Et c'est la question que pose Françoise Breu. Et moi, dans mes illustrations, je me suis demandé que faisait cette femme-là. Et du coup, tout se recoupe, quoi, un petit peu.
Merci. Eh bien, je laisse la place à Olivier qui va vous cuisiner grâce aux lettres.
Oui, il est beaucoup question de rencontres dans cette interview, cet entretien que nous allons avoir avec Guy Chamoux. Alors, première rencontre, évidemment, la visite de son exposition dans l'espace Grenette, exposition qui est maintenant terminée, mais justement, hors actualité, on se retrouve. Cette rencontre a été celle donc d'une œuvre dont qu'on va tenter de décrire un tout petit peu, et en même temps la découverte d'un livre, dont l'auteur est Anna de Noailles, une contemporaine de Marcel Proust. L'œuvre est un roman épistolaire intitulé « Le visage émerveillé ». Le titre déjà est très poétique, « Le visage émerveillé ». Et ce texte qui raconte une histoire d'amour, comment une religieuse est rejointe dans son monastère par un jeune homme, ça fait un petit peu roman courtois comme ça, ce roman épistolaire a été illustré par Guy Chamoux, par des gravures. Et donc, abécédaire habituel dans mes entretiens, effectivement, tenter de rendre compte d'une chose, a comme ambiance, parce que, une ambiance, naturellement, se dégage du livre d'Anna de Noailles, qui a été encensé par Proust, à mon avis, à juste titre. C'est un très, très beau livre. Et une ambiance, également, se dégage des gravures de Guy Chamoux, qui illustre ce livre. Ces gravures, Guy, elles vous ont été inspirées, non pas par cette œuvre d'Anna de Noailles, mais par autre chose, une rencontre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je n'avais pas lu le livre. Les éditeurs m'ont proposé ensuite d'assembler ce que j'avais déjà fait par ailleurs et leur livre. C'est-à-dire que j'étais parti dans le Vercors avec ma femme et nous avions passé 3-4 jours dans un hôtel, et un très bel hôtel. Et nous mangeions le soir au restaurant. Et une femme se trouvait toujours là, assise dans un fauteuil, et elle lisait. Moi, je me suis demandé ce qu'elle pouvait lire. Je me suis demandé surtout pourquoi elle était seule et qu'elle lisait comme ça. Et du coup, je lui ai inventé des histoires. Je l'ai décrite de multiples façons, de façon à décliner sa vie qui pouvait être ou ne pas être. Et cette femme était très intériorisée, très en dedans d'elle. Et je pense que ce qui a plu aux éditeurs, c'est que le monde du couvent et le monde secret de ce qui s'y passe, bien c'est aussi quelque chose de très intérieur. Et donc les deux ambiances qui ont finalement peu de choses à voir, se retrouvent et se croisent.
Moi, je me suis beaucoup interrogé sur les raisons limite techniques qui permettaient de planter cette ambiance en même temps qu'un décor. Donc, il s'agit de gravures. Nous avons donc des images en noir et blanc. Est-ce que, selon vous, ça contribue à évoquer cette intimité ?
Oui, tout à fait. Le livre, le texte, je l'ai lu après avoir fait les illustrations. Et c'est un texte que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et je trouve qu'il est, il est très doux et en même temps extrêmement tranché, un peu, il y a des zones d'ombre, de mystère, et donc ce contraste noir et blanc, il lui convient. Et d'autre part, la technique de la linogravure, vous avez une plaque que vous creusez avec des gouges, qui sont des petites lames qui enlèvent le lino qu'il tranche, quoi. Et il s'agit ensuite d'ancrer la plaque avant de l'imprimer sur du papier. Tout ce qui a été creusé ne touche pas le papier, donc reste blanc. Tout ce qui n'a pas été creusé devient noir et représente le motif. C'est aussi une question de contraste, c'est une question de choses qui ne se voient pas dans le blanc mais peuvent s'y retrouver sans que... C'est assez mystérieux. Et l'autre complication, c'est que, et je trouve que ça correspond bien au texte aussi, ouais. C'est que c'est une question d'aversion. C'est-à-dire que quand vous travaillez une plaque, lorsque vous l'imprimez, il y a ce noir et ce blanc qui apparaissent, mais il y a aussi l'inversion de l'image, c'est-à-dire que vous l'imprimez à l'envers. Du coup, ça complique beaucoup les choses, et je pense que ça a un lien entre l'histoire et la manière de le faire.
Oui, bah, tout à fait, parce que cette image dont il faut respecter donc la symétrie gauche-droite, en même temps qu'on respecte évidemment le contraste noir-blanc pour avoir le motif, le respect de la direction gauche-droite, ça dit beaucoup de choses sur les rapports de l'intérieur et de l'extérieur du couvent, ça dit beaucoup de choses sur la direction du regard de l'héroïne, hein, évidemment, et donc de gauche à droite, on a un peu une dynamique, et effectivement, je crois que ça contribue à la création de cette ambiance, ça met la tension particulière qui existe dans l'histoire, non?
Oui, oui. Comment dire, ce qui encore une fois me rend les choses un peu compliquées, c'est que je n'avais pas lu ce livre et vraiment, j'y trouve des liens de rencontre entre les deux, tous les deux. Je pense que ça va avec. Il y a effectivement beaucoup une question d'intériorité dans tout ça, d'interdit aussi. Ouais. Moi, cette femme, je ne sais pas ce qu'elle faisait dans ce restaurant, mais voilà, c'était un mystère. Et puis l'autre chose que je voulais dire aussi à propos de la closure, de ce qui est fermé, c'est je trouve que le couvent est une forteresse qui protège autant qu'elle enferme. Et cette femme, c'était son esprit qui l'enfermait quelque part, enfin ailleurs. Plus, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que dans cet hôtel Bélier, là-bas, il y a un carrelage noir et blanc qui est extraordinaire. Et ça me fait penser un peu, je ne sais pas pourquoi, à de la prison. Et ça me fait penser aussi à Vermeer, parce que Vermeer, quand il peint, il y a souvent ce carrelage noir et blanc. Et voilà, c'est les deux liens.
Complètement. En plus, chez Vermeer, il y a très clairement cette tension de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a souvent une fenêtre, il y a souvent une lumière tombante comme ça qui vient de l'extérieur, et éventuellement sur une femme qui porte une lettre. Ça, voilà. Oui, on est tout à fait dans l'ambiance Vermeer et dans cette tension du noir et du blanc, de l'intérieur et de l'extérieur. Du permis et de l'interdit, et effectivement, de l'enfermement et de la protection. Enfin, on a oui. Tout ça qui est rendu également, donc je rappelle, par Anna de Noailles dans Le visage émerveillé, qui est publié donc aux éditions du Paquebot, et puis donc illustré par Guy Chamoux avec ses gravures lino. On continue l'abécédaire. Il a déjà été question de technique. Et effectivement, quand on parcourait l'exposition à l'espace Grenette, on était frappé des bases que vous possédez. C'est un petit peu peu dire que vous possédez des bases, mais des bases d'énormément de techniques différentes. On faisait le tour de l'exposition. On voyait donc bien sûr les linos, des assemblages, trois dimensions, petite statuette, si on peut le dire comme ça, des acryliques, de la pointe sèche, des huiles, des pastels. Pourquoi cette diversification dans les moyens ?
Parce que je travaille par série. Alors la série peut être imposée par un livre que j'ai lu et sur lequel je vais travailler, ou ça peut être un simple sentiment qui fait que j'ai besoin de le traduire de manière différente, enfin en plusieurs fois, parce que à chaque fois qu'on refait quelque chose, on le simplifie ou on le rend plus net, plus précis, on élimine ce qui est inutile, anecdotique, voilà. Donc toutes ces techniques dont vous avez parlé, c'est lié au sujet que je m'impose. Il y a dans l'évocation de cette femme, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il fallait du contraste, il fallait quelque chose qui ait très peu de recul, que ce soit vraiment très frontal. Au contraire, quand j'ai travaillé sur Proust, là il y avait plein de techniques différentes, mais c'est tellement plein comme monde que il faut un peu toutes les techniques, il faut donner de l'espace, il faut donner de l'intériorité aussi. Enfin, tout, voilà. Chez Pavès, je l'ai fait en linogravure, et ensuite. La linogravure me sert de squelette ou de base, et puis je la recouvre d'acrylique de façon à ce que où le sujet reste, où il disparaît, mais j'ai quand même une trace, moi, qui m'aide beaucoup. Le pastel, c'est une technique que j'aime beaucoup, mais qui est très, 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 très difficile. Il y a la pointe sèche, enfin... Non. Mais ça dépend du sujet, con.
Pardon, je me permets. Pourquoi la couleur pour Pavès ?
Parce que Pavès, bizarrement...
Bel orange, un bel orange, entre parenthèses.
Oui. Alors, un paysage très orange, parce qu'il faisait très, 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 très chaud dans les Langues, son pays. Et bizarrement, le monde de Pavès est très sombre et noir, très noir. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça fait plusieurs fois que je constate que plus j'essaye de m'approcher d'un sujet qui est sombre et contrasté en noir et blanc, plus j'y mets de la couleur. Et inversement, voilà, c'est, je ne sais pas pourquoi. Mais Pavès, c'est plutôt un monde à la lecture qui est très sombre. Ouais. Et là, il se trouve que... Je suis allé, je voulais suivre ses traces, je voulais aller le retrouver là où il avait vécu. Donc je suis allé au sud de Turin, là, et j'en ai ramené beaucoup de croquis, de paysages. Et ce qui me revenait, c'était ces couleurs extraordinaires. Ouais. Ouais. Oui.
Alors on glisse tout naturellement vers ma troisième lettre. J'évoque la notion de classique. Alors je parle de classique au sens des Chinois qui ont des textes comme ça sur lesquels on revient plusieurs fois pour les retravailler, y découvrir des choses que on n'y avait pas vues jusqu'alors. Et vous, chacun de nous a ses classiques, tout lecteur a ses classiques. Vous avez les vôtres. Qu'on découvre et qu'on découvrait déjà à l'espace Grenette, à savoir Baudelaire, Pavès, on vient d'en parler, Proust, c'est apparemment tout à fait central, nous l'avons déjà évoqué ici. Un autre que je connais mal, mais qui est un de vos classiques à vous, c'est Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan. Alors, est-ce que effectivement certaines œuvres font office pour vous de classiques auxquels vous revenez, éventuellement pour les illustrer?
Oui, bien sûr. Alors, quand on me les propose, c'est le cas de Baudelaire. Baudelaire, les éditeurs du Paquebot m'ont proposé de travailler ensemble sur Baudelaire. Donc, Baudelaire, je le connais, hein, je le connaissais son écriture, mais voilà, c'est un travail qui s'est fait en commun, là, vraiment. Par contre, Proust, ou surtout Malcolm Lowry, comment dire, Proust, pour moi, ça a été comme une naissance, parce que j'avais fait des études un peu scientifiques et puis je me suis mis à la littérature. Et du coup, Proust, c'est quasiment le premier livre que j'ai lu pour faire un littéraire, quoi, pour me dire que je savais des choses. Et du coup...
Bonne pioche.
Là, je me suis pas trompé. Puis oui, lui, il revient sans arrêt. Hein. Et puis, c'est pas étonnant d'ailleurs qu'il y ait un texte d'Anna Noaï, puisqu'ils sont très liés tous les deux. Mmh. Et l'autre roman qui est très, très important pour moi, c'est Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry. C'est un roman extraordinaire. Il n'y en a pas d'autre comme celui-là. Lui, Lowry, il a quasiment pas pu écrire d'autres choses parce qu'il était très 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 alcoolisé, très très alcoolique. Donc il est mort jeune. Mais ce roman, il a mis 10 ans à le faire et c'est indescriptible. C'est l'amour absolu, c'est l'horreur. Très noir, et puis dans l'écriture, le livre commence pendant 90 pages sur une scène entre deux hommes qui se passe un an après les faits qui vont être décrits après. Donc quand vous êtes lecteur de ça, eh ben, vous essayez de vous accrocher, de comprendre des trucs, des bribes de cette histoire, et puis vous y passez à travers, hein, c'est pas évident. Et par contre, quand l'histoire commence, eh ben, vous avez aussi déjà ce regard des deux premiers personnages. Mais c'est une lecture pas facile, mais il faut y revenir. Et puis voilà, les textes, enfin, Lowry, il y a plein de choses, il y a des paysages, il y a surtout des liens entre les personnages, et ça, il faut c'est compliqué à rendre, et c'est... Ça revient un petit peu à ce que à Anna de Noailles, finalement, c'est que dans les liens entre les personnages, dans leurs combats ou dans leurs affrontements, c'est le corps qui exprime tout ça. On ne les fait pas parler, donc il faut qu'il y ait ou des regards ou des attitudes, des torsions, et c'est compliqué à trouver. C'est compliqué, mais c'est merveilleux.
Donc vous illustrez des classiques, effectivement, comme un peu comme Gustave Doré a illustré la Bible ou La Fontaine, ou je ne sais. Il nous va falloir nous quitter. J'aurais voulu parler de villes qui sont importantes. J'aurais voulu parler de personnes dans votre dont vous êtes les descendants. Mais le temps est compté. Je voudrais finir par l'évocation de cette exposition dans laquelle... Comme dans toute exposition, je crois, l'artiste est appelé à s'exposer lui-même. Ça ne doit pas être facile, matériellement déjà. Mais c'est la contrepartie, un lieu de rencontre. Vous avez fait des rencontres durant cette exposition?
Oui, oui, oui. Les spectateurs sont différents. Il y en a qui traversent, il y en a qui passent très vite. Et puis il y a beaucoup de gens, je trouve, qui ont beaucoup, beaucoup regardé, qui vous posent des questions, qui s'intéressent, et puis des bonnes questions, qui n'ont pas peur de, eux aussi, à leur tour, de s'exposer en disant leurs sentiments. Et évidemment, oui, moi, quand je montre mes peintures, je m'expose, ça c'est évident, mais il y a des gens qui ont trop peur de penser qu'ils n'ont pas un regard savant et qui n'osent pas. Soit ils n'osent pas entrer, soit ils n'osent rien dire. Et c'est dommage parce que ça, l'exposant, c'est ça surtout qu'il attend finalement de la venue des gens. Mais il y a plein de... Oui, j'ai beaucoup parlé avec certaines personnes, beaucoup de personnes.
Et ça s'est prolongé ici, finalement.
Oui, voilà.
c'était une joie de causer un petit peu avec vous. J'invite les auditeurs à aller voir, puisque c'est le plus accessible immédiatement, Anna de Noailles, Le visage émerveillé, aux éditions du Paquebot, illustré par Guy Chamoux et Céline Augravure. C'est magnifique, c'est une expérience en soi, et de littérature, et de peinture.
Et puis de musique aussi, parce que Guy Chamoux a illustré, je crois, des pas mal Bob Dylan aussi.
Oui.
Mais voilà, ça faisait partie aussi peut-être des classiques, Bob Dylan.
Oui, oui, oui.
Ah bah, c'est le prix Nobel de littérature quand même.
Oui, oui. Merci beaucoup Olivier. Merci. Et merci Guy Chamoux. Oui,
merci
à tous les deux. On continue cette émission avec la Minute Asso.
La Minute Asso.
Aujourd'hui, pour la Minute Asso, nous sommes avec Mariette Aubert, directrice d'Âme Sud, qui vient nous parler d'un événement qui aura lieu à l'IAS, c'est tout près de Privas, le 24 juin, à destination du monde associatif. Bonjour Mariette.
Bonjour.
Alors ce 24 juin, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors ce 24 juin, on propose en fait le temps fort annuel du réseau Guide Asso, mission d'appui à la vie associative qui existe depuis plusieurs années sur le territoire ardéchois et qui regroupe des têtes de réseau qui assurent de l'accompagnement de la vie associative sur différentes thématiques et différents points du département de l'Ardèche. Donc sur ce temps fort qui est un temps ouvert à toute personne intéressée par la vie associative, que ce soit des élus locaux, des bénévoles ou de simples citoyens. On propose deux temps. Le premier, c'est une présentation du programme Leader, qui est un dispositif.
Qu'est-ce que c'est le programme Leader ?
Alors, le programme Leader, c'est un programme de développement rural. En fait, c'est des financements européens qui ont pour objectif de participer au développement des territoires ruraux. Voilà. Et en Ardèche, on bénéficie du programme Leader. Et donc, Maud Chaperon, qui est la responsable du programme, viendra présenter les opportunités que ça peut être pour financer des actions portées par les associations et par des associations en partenariat avec des collectivités locales.
Super. Donc, présentation du nouveau programme Leader. Et vous allez proposer aussi autre chose, une conférence, c'est ça ?
Tout à fait, une conférence sur ce qu'on a appelé initiation à l'évaluation de l'impact social des associations. En fait, l'impact social, c'est un terme un peu technique peut-être, mais qui aujourd'hui est une réalité pour les associations qui bénéficient de financements privés ou publics, où on nous demande de manière de plus en plus insistante d'évaluer notre impact. Et en fait, du coup, la conférence va nous permettre de pouvoir comprendre de quoi on parle quand on parle d'impact social et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'évaluation en fait, des actions qu'on peut mener sur les territoires. Et cette conférence sera animée par Thierry Véclin, qui a travaillé cette question-là au sein de ses diverses expériences professionnelles. Peut-être préciser qu'on peut s'inscrire à tout ou partie du séminaire. Donc si on est intéressé spécifiquement par la présentation du programme Leader, on peut s'inscrire de 14h à 15h30. La conférence, aura lieu de 15h30 à 17h30. Donc c'est soit l'ensemble de l'après-midi, soit un bout. Et on clôturera par un temps plus convivial aussi de création de réseau entre les personnes qui seront là.
Et on s'inscrit sur le réseau Guide Asso.
Alors, on trouve toutes les informations sur le site internet Guide Asso 07.fr, donc G-U-I-D-A-S-S-O 07.fr. Et là, il y a tout le détail du séminaire et l'inscription est possible, effectivement.
Je pense qu'on a toutes les informations. Vous voulez ajouter quelque chose ou un autre rendez-vous ?
Alors, sur le site Guide Asso, vous pouvez aussi retrouver toutes les formations pour les bénévoles associatifs sur l'ensemble du département de l'Ardèche. Et là, il y a un cycle qui démarre en centre Ardèche autour de la question de la mobilisation des financements privés et publics. Donc vous pouvez aussi vous inscrire sur le site Guide Asso.
Allez voir ce site Guide Asso 07 pour avoir toutes les infos, les formations et les temps forts. Merci beaucoup Mariette Aubert, directrice d'Âme Sud, de nous avoir présenté donc cet événement qui aura lieu le 24 juin à l'IAS.
Merci.
La Minute Asso.
C'est la fin de cette onde curieuse que vous pourrez retrouver sur le site fréquence7.net dans les replays. Et puis, restez à l'écoute de Fréquence 7, puisqu'à 13h, vous pourrez entendre Les Jardins Suspendus avec Olivier Horry.
Profitez-en, il n'y en a plus beaucoup.
Oui, ah bah oui, c'est un scoop, tu peux l'annoncer.
Oui, Les Jardins Suspendus, après 25 ou 30 ans d'existence, s'arrêteront à la rentrée.
Suspension nette, radicale, définitive.
Ah, on va savoir. C'est le début d'une longue histoire.
Ouais. Donc profitez encore des quelques jardins suspendus qu'il reste avant la fin de la grille de saison. À 15h, le Telex, vos messages au 04 75 93 30 25. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, solidaire d'abord. À 19h, c'est l'écho du parquet. Et à 21h, c'est DJ Steph qui propose son Hexagone Live consacré à Jeff Buckley, qui est mort en 97. Et en 95, il faisait deux soirées à l'Olympia. Et il présentait notamment les titres de son unique album Grace, avec cette dernière chanson que vous avez en tête, j'imagine, Alléluia de Leonard Cohen. Reprise par Jeff Buckley. C'est plus que reprise, c'est réinterprété par Jeff Buckley. Donc, soyez à l'écoute de Fréquence 7 à 21h pour Hexagone Jazz. Non, Hexagone Live, évidemment. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Nous, on se retrouve demain et on parlera avec une autre artiste, Diane Pellin. Ciao.
Oh, Diane.